10 days that shook the world. 10 jours qui ébranlèrent le monde, de John Reed. Adapté et réalisé par Michel Sidorov. 5e épisode, du chaos au grand soir.
Dans les rapports entre un gouvernement faible et un peuple en révolte, il arrive toujours un moment où tout acte du pouvoir ne fait qu'exaspérer les masses, et tout refus d'agir de sa part qu'exciter le mépris. Le projet d'abandonner Pétrograd déchaîna une tempête.
J'affirme solennellement, oui, j'affirme, que jamais, au grand jamais, le gouvernement n'a eu l'intention d'abandonner Pétrograd.
Берем. 5 рублей.
Вот, товарищ. Спасибо.
Рабочий путь.
Mis au pied du mur par la révolution, le gouvernement provisoire des bourgeois essaie de se tirer d'affaire par des mensonges, en affirmant qu'il n'a jamais songé à fuir Pétrograd ni à livrer la capitale.
Товарищ, помогите мне.
Да, да.
Take that! Go away! Go away! Basta! Basta! Antisémite!
Merci, camarade. Et merci aux camarades américains. Si je m'attendais...
Не за что нормально, non, товарищ. Но я потерял газету. J'ai perdu mon journal.
Ну вот, для тебя это бесплатно. Pour toi, c'est gratuit.
Спасибо, спасибо. Où j'ai pu mettre ce journal? Ah, voilà. Le Rapuchiput du 22 octobre. À Kharkov, 30 000 mineurs se sont organisés. Ils ont pris pour devise le préambule des statuts des IWW. Il n'y a rien de commun entre la classe des travailleurs et la classe des employeurs.
Ну, товарищи, вот. Мы решили принять тот вводный пункт устава индустриальных рабочих мира, который гласит: класс рабочих и класс предпринимателей не имеют между собой ничего общего.
De Kharkov avait adopté le préambule des statuts des IWW.
Oui, je crois bien que je le rappelle dans Six Months in Russia. À propos, il sort la semaine prochaine. Il y aura une petite fête. Je compte sur toi.
Ah, viens par ici. Oui, nous fêterons ça ensemble.
C'est merveilleux de partager toutes ces choses, de travailler ensemble. Dépêche-toi de terminer ton livre.
Tu dis toi-même que j'y travaille beaucoup trop, que tu n'as plus le temps de me voir.
C'est vrai. Je suis inquiète de te voir si fatiguée.
Ça ira.
T'en es où ?
Au préparatif de l'insurrection. Lénine et Trotsky en avaient fait admettre le principe et l'urgence. À présent, Lénine est venu à Smolny, probablement encore déguisé. Cher Zalkind, heureusement qu'il m'a prévenu. Mais la réunion est à huis clos et encore cette fois, je ne pourrai pas entendre Lénine de mes propres oreilles. Enfin, pas tout à fait.
John, toujours là au moment historique. Je sais que Zalkind vous a prévenu. Nous vous faisons confiance. Voilà ce que Lénine vient de déclarer. Le 24 octobre, il sera trop tôt. Il faut que l'insurrection s'appuie sur la Russie tout entière. Or, le 25, tous les délégués au congrès pan-russe des soviets ne seront pas encore arrivés. D'autre part, le 26, il sera trop tard. À cette date, en effet, le congrès sera organisé. Et il est difficile à une grande assemblée constituée de prendre les mesures promptes et décisives. C'est le 25 que nous devons agir. Le jour de l'ouverture du congrès, afin de pouvoir lui dire « Voici le pouvoir, qu'allez-vous en faire ?»
Dans 4 jours, je me tiens prêt.
Vous avez la chance de pouvoir rendre compte d'un événement historique considérable, au moins aussi important que la Révolution française. Notez tout, les préparatifs ici, à Smolny, ce qui se passe dans les usines, dans les casernes, dans les rues. Lénine est au courant par Trotsky de votre présence avec les camarades Bill Chatov et Albert Rhys-Williams. Toutes les portes vous sont ouvertes.
Le gouvernement a envoyé un détachement de cadets et de miliciens envahir l'imprimerie de Rabotchi Pout. Ils ont évacué le local et mis les scellés sous la porte. Ils ont emmené 2 camarades. J'ai réussi à m'échapper.
Ils veulent interdire nos journaux alors qu'ils déclarent ne pas vouloir s'en prendre à la liberté de la presse. Je demande aux camarades d'envoyer immédiatement un groupe de gardes rouges libérer l'imprimerie.
Je viens avec vous.
Inutile, John. Ils vont très bien se débrouiller. Montez plutôt voir le camarade Antonov. Il a des choses importantes à vous montrer, ok? C'est comme ça qu'on dit chez vous, ok, n'est-ce pas?
Saglasien.
Vous êtes John Reed, journaliste américain, ami du parti bolchevique, c'est cela?
J'ai l'impression de venir consulter un médium.
Rassurez-vous, ce n'est pas ma spécialité. Je suis plutôt dans le rationnel. Quoique les mathématiques, mon métier comporte aussi leurs irrationnels.
Je commence à comprendre pourquoi Volodarsky me proposait de monter vous voir. C'est un plan de la ville?
Oui, et vous voyez, souligné en rouge, les lieux que nous autres bolcheviques contrôlons.
L'usine Poutilov.
Important, mais elle est un peu éloignée du centre politique, le Palais d'Hiver et le Palais Marie.
Encore des usines. L'usine de câbles d'acier. La forteresse Pierre et Paul, juste de l'autre côté de la Nieva.
Les soldats de la forteresse sont en train de basculer majoritairement en faveur des soviets et du comité militaire révolutionnaire. C'est un appui essentiel. Il ne reste plus qu'à convaincre le bataillon de cyclistes et soldats motorisés qui s'y trouvent. Ils arrivent fraîchement du front et n'ont pas participé à l'évolution révolutionnaire de la garnison. Les cyclistes sont un petit peu les aristocrates de la troupe. Quand on est sur son engin, on a l'impression d'être seul maître à bord. Mais ces gars-là ont tout autant horreur de cette guerre que les fantassins de la garnison. Il y aura un meeting après-demain sur l'esplanade de la forteresse. Trotsky doit y prendre la parole.
Dans le golfe de Finlande, le croiseur Aurore.
Il ne va pas y rester longtemps.
Le central téléphonique n'est pas souligné en rouge.
Nous y avons des militantes, mais elles sont sous la surveillance de leur chef, de vieilles tsaristes, qui leur répètent matin et soir qu'elles n'ont rien à voir avec les ouvriers et les grossiers paysans. Et puis, des junkers y sont postés.
La gare de Finlande est soulignée en pointillé rouge. Pourquoi cette nuance ?
Bien, un peu pour les mêmes raisons que pour le central téléphonique. Il y a un fossé de plus en plus profond entre les dirigeants mencheviques installés depuis longtemps à la tête du syndicat des cheminots, le Vigel, et la base, qui lit nos journaux et parfois est organisée au parti bolchevique.
Et vous pensez que la situation peut se retourner en votre faveur en 4 jours ?
Partout ailleurs, nous sommes majoritaires et écoutés. Vous avez remarqué comme tout s'accélérait ?
Le lundi 22 octobre au matin, j'entrais au Palais Marie pour savoir ce qui se passait au Conseil de la République. Un SR de gauche, Karéline, donnait lecture d'un article de journal.
Voici ce que le Times de Londres écrit dans son éditorial. Le remède contre le bolchevisme, ce sont les balles. Oui, oui, c'est ce que vous pensez, vous, les cadets. C'est votre opinion.
Oui, parfaitement.
Les balles.
Les balles.
Oui, c'est ce que vous pensez. Seulement, vous n'avez pas le courage d'agir.
Au milieu de ce tumulte, les bancs des bolcheviques étaient toujours aussi vides. La vraie vie était ailleurs.
Camarades soldats, le régiment de la garde Pavlovski l'a déclaré solennellement. Il ne reconnaît désormais que l'autorité du comité militaire révolutionnaire. D'un autre côté, vous avez entendu les représentants de Kerensky et des Mencheviks. Que vous propose-t-il ? De continuer la guerre, cette boucherie au service des banquiers, de supporter encore le pouvoir des grands propriétaires. Nous savons que le gouvernement provisoire prépare un mauvais coup. Déjà, des arrestations sont lancées contre les dirigeants élus du Soviet de Petrograd. Vous êtes à l'heure du choix. Vous avez écouté le camarade Trotsky. Il vous a décrit les immenses possibilités qui sont les nôtres si nous maintenons notre exigence du pouvoir au Soviet. Il vous a décrit aussi les manœuvres criminelles du gouvernement provisoire, alliés des généraux monarchistes, généraux qui ont organisé le désastre de cette guerre. Je propose que les camarades cyclistes, qui n'ont pas encore décidé quelle autorité militaire ils reconnaîtraient, se rangent à gauche pour le comité militaire révolutionnaire et à droite pour le district militaire. Êtes-vous d'accord ?
Monsieur John Reed, vous assistez à un événement historique.
Je regrette d'avoir manqué votre intervention, monsieur Trotsky.
Aucune importance. Un discours parmi tant d'autres. Mais je ne pouvais me résoudre à imaginer que l'ensemble des soldats de la forteresse ne nous suivraient pas. Il eût été dommage d'intervenir de l'extérieur. Nos ennemis nous auraient alors accusés de pratiquer un coup de force. Ah, voilà nos cyclistes qui saluent le choix du comité militaire révolutionnaire comme autorité militaire.
Le 24 octobre, je repris mes allées et venues entre le Palais Marie et Smolny.
Montre-moi ça, camarade. Tiens, 5 roubles.
Ils ont interdit la Nouvelle Russie, le Jeboe Slovo et les journaux bolcheviques comme le Rabochi Put et le Soldat. Ils ont ordonné l'arrestation des chefs de Soviet de Petrograd et des membres du comité militaire révolutionnaire. Ils ont l'air de s'affoler là-dedans.
Non,
L'employé du vestiaire qui m'appelle Monseigneur. Le vieux monde.
Спасибо, товарищ.
Et au moment où les soviets d'ouvriers s'apprêtent à prendre le pouvoir.
Je me dois de mentionner les passages les plus caractéristiques d'une série d'articles publiés dans le Rabotchi Putsch par le criminel d'État Ulyanov Lénine, qui actuellement se cache et que nous nous efforçons de découvrir. Dans une série de manifestes intitulés « Lettres aux camarades », ce criminel invite le prolétariat et la garnison de Petrograd à répéter l'expérience des journées des 16 et 18 juillet et démontre la nécessité d'une insurrection armée immédiate. D'autres chefs bolcheviques ont également appelé à l'insurrection. Il convient de souligner tout particulièrement l'activité du président actuel du Soviet de Petrograd, Bronstein Trotsky. Et laissez-moi vous citer ce passage particulièrement hideux et antipatriotique du criminel Ulyanov Lénine. Pensez que nos camarades allemands n'ont que le seul Karl Liebknecht, qu'ils n'ont ni journaux, ni liberté de réunion, ni soviet. Dans de telles conditions pourtant, ils ont organisé un soulèvement dans la flotte, et nous, qui avons des douzaines de journaux, la liberté de réunion, la majorité dans les soviets, nous, les internationalistes prolétariens, jouissant de la situation la plus favorable dans le monde, nous refusons de soutenir les révolutionnaires allemands en nous insurgeant à notre tour. On m'apporte à l'instant la proclamation qu'ils sont en train de distribuer au régiment. La voici. Le soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd est en danger. J'ordonne la mobilisation immédiate sur le pied de guerre de tous les régiments qui attendront des ordres ultérieurs. Tout retard dans l'exécution du présent ordre ou tout refus de s'y soumettre sera considéré comme un acte de trahison envers la révolution. Et c'est signé le comité militaire révolutionnaire pour le président Podvoïski, le secrétaire Antonov. Il y a bien là, pour parler la langue judiciaire, état de rébellion, tentative de dresser la populace contre l'ordre existant. Au nom du gouvernement provisoire, j'affirme que le gouvernement n'a jamais violé la liberté qui appartient à tout citoyen de faire usage de ses droits. Mais aujourd'hui, il faut en finir avec les éléments, tous les groupements ou partis qui osent porter la main sur la libre volonté du peuple russe et menacent d'ouvrir le front à l'Allemagne.
Monsieur Goltz, du groupe Menchevik, demande la parole.
Certes, les bolcheviks font une politique démagogique et criminelle en exploitant le mécontentement populaire. Mais il faut reconnaître que de nombreuses revendications n'ont pas encore reçu de satisfaction. Les questions de la paix, de la terre, de la démocratisation de l'armée devraient être posées de telle façon qu'aucun soldat, aucun paysan, aucun ouvrier ne puisse douter que le gouvernement s'efforce fermement, résolument de les régler.
Au nom des Mencheviks internationalistes, je demande la parole.
Le terme de « populace » brandi par le président du Conseil, M. Kerensky, quand il s'agit d'une partie importante du prolétariat et de l'armée, est une insulte. Une excitation à la guerre civile. Loin d'éliminer les causes de cette rébellion, l'attitude de M. Kerensky ne ferait que les renforcer. Je propose que nous mettions au point et votions une résolution disant que oui, la démonstration armée qui se prépare depuis quelques jours risque de provoquer la guerre civile. L'entrée en scène des sangs noirs, de toutes sortes de pogromistes. Mais que la raison en doit être cherchée dans le retard apporté à certaines mesures urgentes. Il est donc nécessaire, avant tout, de promulguer immédiatement un décret remettant les terres au comité agraire et d'adopter une politique extérieure énergique en proposant aux alliés de proclamer leurs conditions de paix et d'entamer des négociations. Il est nécessaire de créer, pour enrayer l'anarchie et l'activité pogromiste, un comité de salut public, composé de représentants de la Douma municipale et des organes de la démocratie révolutionnaire, comité agissant avec le gouvernement provisoire.
John, je me présente le camarade Lazarinov, un des responsables du comité militaire révolutionnaire.
Et je vous ai aperçu l'autre soir, entrant dans ce bureau, et je m'en souviens parce que d'une part, vous êtes fort jeune, et d'autre part, le bureau porte le numéro 17, un chiffre remarquable.
Monsieur Reed, vous n'allez pas devenir superstitieux comme les Russes?
Non, assurez-vous, même si je tiens plus que tout à la réussite de votre entreprise.
Tu peux dire notre entreprise. Je viens d'être recruté par le comité militaire révolutionnaire.
La révolution n'a pas de frontières.
Une nouvelle que vous devez connaître et qui m'a enchanté. J'ai rencontré à l'angle de la Morskaya et de la Nevski des matelots qui portaient les bérets des croiseurs, l'aurore et aube de la liberté.
Avrora i zaria svobody.
Ils étaient très gais et m'ont déclaré « Kronstadt est en route ». C'était comme si, en 1792, on avait dit dans les rues de Paris « Les Marseillais sont en route ».
Il y a à Kronstadt 25 000 matelots, bolcheviques convaincus et qui n'ont pas peur de la mort.
Ils sont le cœur de la révolution. Mais dites-moi, camarade, il se fait tard, sortons un moment dîner en ville.
Dire qu'à l'Opéra Marie, on donne ce soir Boris Godounov, comme d'habitude.
J'ai participé à ma première action militaire aujourd'hui. Nous avons pincé le ministre de la Justice et le ministre des Cultes. Ils sont sous clé à présent. Un régiment est en marche pour s'emparer du central téléphonique, un autre occupera l'agence télégraphique et un troisième la Banque d'État.
La garde rouge est sur pied.
Слышите? Там стреляют.
Ce sont les matelots de Kronstadt qui referment le pont de la Neva. Les Junkers voulaient le tenir ouvert, afin d'empêcher les ouvriers des usines et les soldats du quartier populaire de Viborg de se joindre aux forces des soviets du centre-ville.
Derrière nous, le grand Smolny tout illuminé bourdonnait comme une gigantesque ruche.
10 days that shook the world. 10 jours qui ébranlèrent le monde, de John Reed. Adapté par Michel Sidorov. 5e épisode, du chaos au grand soir. Avec Pierre-Marie Baudouin, John Reed, Flora Brunier, Louise Bryant, Nicolas Struve, Bill Chatoff, Jean-Benoît Souille, Kerensky, Sergei Vladimirov, Lénine, Thibaut Vinson, Volodarsky, Pierre Val, Antonov, Jérôme Quintard, Léon Trotsky, Olivier Cruveillet, Martov, Vincent Marguet, Lazarimov, Arnaud Bédoué, Tchoudovski, et Daria Kropivianska, Norbert Ferrer, Cecilia Dassonville, Véronika Ovchinikova, Aristide Legrand, Jean-Marc Charrier, Jean Riffel, Guillaume Bourboulon. Musique originale, Sylvain Cassap. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Dali Yaha, Mathieu Leroux, Olivier Dupré, Benjamin Vignal. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov.